Chapitre 26. C'est de l'autre côté du palier, à droite, que s'ouvrait le logis. Madame Fortin pompeusement disait « l'appartement » de Maxence. Il y avait là une sorte d'antichambre, presque aussi grande qu'un mouchoir de poche, décorée par les époux Fortin du nom de salle à manger, une chambre à coucher et un placard, qualifié « cabinet de toilette » sur le papier de location. Rien de plus triste que ce logement, dont les papiers éraillés et les peintures malpropres gardaient l'empreinte de tous les nomades qui s'y étaient succédés depuis l'inauguration de l'Hôtel des Folies. Le plafond disloqué s'écaillait par larges places, le parquet s'émietté, il fallait un effort pour ouvrir et fermer les portes et les fenêtres, affreusement gauchies. Le mobilier était à l'avenant. « Comme tout s'use !» gémissait la Fortin. « Il n'y a pas 10 ans que j'ai acheté mes meubles !» Il y en avait plus de 15, et encore les avait-elle achetés d'occasion, et déjà presque hors de service. Aussi les rideaux ne conservaient-ils qu'une nuance vague de leur primitive couleur. Le lit était presque entièrement déplaqué. Pas une serrure ne jouait, du secrétaire ni de la commode. La descente de lit n'était plus qu'une loque infâme, et il fallait se défier du divan, dont les élastiques brisés perçaient l'étoffe éraillée et se dressaient comme des lames de poignard. L'objet le plus somptueux était un énorme poêle de faïence qui tenait presque la moitié de l'antichambre salle à manger. On ne pouvait songer à y faire du feu puisqu'il n'y avait pas de tuyau. La Fortin n'en refusait pas moins obstinément de le retirer, sous ce prétexte qu'il donnait à l'appartement quelque chose de bourgeois et de cossu. Tout ce confort coûtait à Maxence 45 francs par mois, plus 5 francs pour le service payable d'avance du 1er au 3. C'était la règle invariable de l'hôtel. Si le 4, un locataire se présentait sans argent, carrément la Fortin lui refusait sa clé et l'engageait à chercher un gîte ailleurs. « J'y ai été trop prise, » répondait-elle à ceux qui essayaient d'obtenir 24 heures de répit. « Et à mon propre père, qui était l'honneur même et officier supérieur des armées de Napoléon, je ne ferai pas crédit jusqu'au 5. » C'était le hasard seul qui, après la commune, avait amené Maxence à l'hôtel des Folies. Il n'y était pas depuis une semaine qu'il se jurait bien de ne pas détériorer longtemps le mobilier bourgeois des époux Fortin. Déjà même, il avait cherché et trouvé un logement plus convenable et moins cher quand une rencontre qu'il fit sur l'escalier vint soudainement modifier toutes ses idées et donner à son appartement un charme qu'il ne lui soupçonnait pas. Il y avait bientôt un an de cela. Comme il sortait un matin, se rendant à son bureau, il se croisa sur le palier même avec une jeune fille assez grande et très brune qui montait en courant. Elle passa devant lui comme un trait, ouvrit la porte en face et disparut. Mais si rapide qu'eût été l'apparition, elle laissait dans l'esprit de Maxence une de ces empreintes qui ne s'effacent plus. De toute la journée, il lui fut impossible de penser à autre chose. Et dès qu'il fut libre, au lieu de se rendre comme d'ordinaire dîner rue Saint-Gilles, il envoya une dépêche à sa mère pour lui dire de ne le pas attendre et bravement il rentra chez lui. Mais c'est en vain que toute la soirée il fit faction derrière sa porte sournoisement entrebâillée. La voisine ne se montra pas. Elle ne parut pas davantage le lendemain ni les 3 jours qui suivirent et Maxence commençait à désespérer quand, enfin, le dimanche, comme il descendait, ils se trouvèrent de nouveau face à face. Elle lui avait paru bien jolie au premier abord. Cette fois, elle l'éblouit à ce point qu'il demeura plus d'une minute comme une statue effacée contre le mur. Et certes, ce n'était pas sa toilette qui rehaussait sa beauté. Elle portait une pauvre robe de laine noire, un col étroit, des manchettes plates et un chapeau de la plus entière simplicité. Elle n'en avait pas moins un air d'incomparable dignité, une grâce qui charmait, et cependant inspirait le respect et une démarche de reine. C'était le 30 juillet. En accrochant sa clé avant de sortir, « Décidément, dit Maxence à Madame Fortin, mon appartement me plaît, je le garde, et voici 50 francs pour le mois d'août. » Et pendant que la gérante de l'Hôtel des Folies lui écrivait un reçu, « Vous ne me disiez pas, commença-t-il de son air le plus indifférent, que j'ai une voisine. » Comme un vieux cheval d'escadron qui entend la trompette, la Fortin dressa la tête. « Ah oui, fit-elle, mademoiselle Lucienne. »« Lucienne, répéta Maxence, c'est un joli nom. » »« Vous l'avez vue ?
Je viens de la rencontrer. Elle n'est pas mal. »
L'estimable gérante tressauta sur son fauteuil.
« Pas mal ? » interrompit-elle. « Pas mal ? Vous êtes difficile, mon cher monsieur, car moi qui m'y connais, je prétends qu'on chercherait plus de 4 jours dans Paris avant de trouver une aussi belle fille. Pas mal ! Une gaillarde qui vous a des cheveux qui lui tombent sur les jarrets, un teint qui éblouit, des yeux grands comme ça et des dents à faire honte pour la blancheur aux dents du chat que voilà. Allez, vous userez plus d'une paire de bottes à courir après les femmes avant d'en joindre une qui la vaille. »
C'était absolument l'avis de Maxence. Et cependant, de l'air le plus froid, «
Y a-t-il longtemps, chère Madame Fortin ? » demanda-t-il. « Quel est votre locataire ?»«
Un peu plus d'un an. C'est ici qu'elle a passé le siège, et même, à ce moment, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de me payer. Je voulais, comme de juste, l'envoyer jeter ailleurs, mais elle n'a fait ni une ni deux. Elle est allée tout droit chez le commissaire de police qui est venu me faire défense de mettre dehors ni elle ni personne. C'est-à-dire qu'on n'est plus maître chez soi. »
C'était bien ridicule, objecta Maxence, décidé à conquérir les bonnes grâces de la gérante.
Jamais on n'avait entendu parler d'une chose pareille, poursuivit-elle. Vous forcez à loger les gens pour rien ? Pourquoi pas à les nourrir aussi pendant qu'on y était ? Bref, pour vous en finir, elle est restée tant et si bien qu'après la commune, elle me devait 180 francs. Pour lors, elle me dit que si je voulais la garder, chaque mois, en me payant d'avance, elle me donnerait 10 francs de l'arriéré. Ce fut convenu et elle s'est déjà acquittée de 20 francs.
« Pauvre fille !» dit Maxence.
Mais la Fortin haussa les épaules.
« Vrai, je ne la plains guère, » répondit-elle. Car si elle voulait, avant 48 heures, je serais payée et elle aurait de quoi se mettre sur le dos autre chose que sa méchante guenille noire. Croyez-vous donc que les occasions lui manquent de se faire une position ? Mais mademoiselle a ses idées. Ça n'a pas le sou et ça fait sa tête. Quelle pitié ! Moi, je me tue à le lui dire. Voyez-vous, ma fille, au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'un ami sur qui on puisse compter, qui vaut mieux que tous les autres et qu'il faut prendre quand il vient et comme il vient et sans faire la grimace s'il n'est pas propre. C'est l'argent. On est toujours bien vu quand on a de l'argent et personne ne demande où vous l'avez pris. C'est pourquoi une femme qui a des avantages et qui ne s'en sert pas est une bête. Les avantages, ça passe. Regardez-moi plutôt. Mais basta, j'ai beau prêcher, c'est comme si je chantais.
C'est avec un ravissement que trahissait son sourire que Maxence écoutait ses renseignements.
« En somme, que fait-elle » interrogea-t-il.
« Ni vue, ni connue, » répondit la Fortin. « Ah, ce n'est pas une demoiselle qui s'use la langue à compter ses affaires. Croyez-vous que je ne sais seulement pas son nom de famille ? Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle file le matin dès le patron miné et que souvent, il est 11 heures qu'elle n'est pas encore rentrée. » Le dimanche, elle reste dans sa chambre à lire et le soir, elle s'en va se promener toute seule au bal ou au spectacle. Si elle en connaissait une de plus originale qu'elle, bien sûr, elle irait lui chercher dispute. »
Un locataire qui rentrait interrompit la Fortin. Et Maxence s'éloigna, rêvant au moyen d'entrer en relation avec cette voisine si jolie et si singulière. Parce qu'il avait autrefois dépensé quelques 100 louis avec des demoiselles à chignon jaune, Maxence s'estimait un gaillard plein d'expérience et quoi que lui eût dit la Fortin, il croyait peu à la vertu d'une fille de 20 ans qui demeurait seule dans son hôtel garni, maîtresse sans contrôle de toutes ses fantaisies. Il se mit donc à épier toutes les occasions de la rencontrer et vers la fin du mois, il en était venu à la saluer familièrement et à lui demander des nouvelles de sa santé. Mais au premier mot de galanterie qu'il voulut risquer, elle le toisa d'un regard si froid et lui tourna le dos avec un tel mépris qu'il en demeura bouche béante, écrasé.
« Ah, je perds mon temps comme un sot !» se dit-il.
Grande fut donc sa stupeur lorsque la semaine suivante, par une belle après-midi, il vit Mademoiselle Lucienne sortir de chez elle, non plus vêtue de son éternelle robe noire, mais portant une toilette éclatante et d'une richesse extrême. Le cœur battant, il la suivit. Devant l'hôtel des Folies, un 8 ressorts stationnait, attelé de 2 bêtes de prix. Dès que Mademoiselle Lucienne parut, un valet de chambre lui ouvrit respectueusement la portière. Elle monta, et le cocher rendit la main à ses chevaux qui partirent au grand trot. Planté sur ses jambes au bord du trottoir, beaucoup plus élevé en cet endroit que la chaussée, Maxence regardait la voiture qui emportait Mademoiselle Lucienne s'éloigner rapidement, puis se confondre et se perdre parmi les 1000 voitures qui se croisent et se mêlent sur la place du château d'eau. L'enfant, qui voit soudain s'envoler l'oiseau sur lequel il espérait mettre la main, a de ses ébahissements désolés. « Parti !» murmurait-il. Mais lorsqu'il se retourna, il se trouva en face des époux Fortin, attirés comme lui dehors par une irrésistible curiosité. Il riait d'un rire qui lui sembla sinistre. « Comme je vous le disais !» s'écria la Fortin. « La voilà lancée ! Fouette, cocher ! Elle ira loin, l'enfant !» Déjà, la magnificence du 8 ressorts, la beauté des chevaux, la richesse de la livrée et la splendeur de la toilette de Mademoiselle Lucienne faisaient leur effet aux environs. Les consommateurs attablés à la terrasse du café ricanaient entre eux. Le confiseur et sa femme, debout sur le seuil de leur boutique, semblaient discuter chaudement, non sans adresser au gérant de l'hôtel des Folies des regards indignés. « Voyez-vous, monsieur Favoral, reprit la Fortin, une si belle fille n'était pas faite pour notre quartier. Il faut en faire votre deuil, elle ne fera plus guère de poussière sur le boulevard du Temple. » Sans un mot de réponse, Maxence lui tourna le dos et précipitamment regagna sa chambre. Il sentait des larmes chaudes lui jaillir des yeux et il avait honte de sa faiblesse. Et dans le fait, que lui importait la conduite de cette jeune fille ? Qu'était-elle dans sa vie ? Est-ce que, la veille encore, il n'eût pas haussé les épaules si on lui eût dit qu'il l'aimait ? « Elle est partie !» se répétait-il. « Eh bien, bon voyage !» Mais il avait beau se dire cela d'un accent délibéré, et même chercher dans son esprit des plaisanteries pour se remonter, il sentait son cœur se serrer et une tristesse noire l'envahir. Des regrets mal définis le poignaient, en même temps qu'il avait des tressaillements de colère. Il songeait qu'il avait été bien naïf de s'en laisser imposer par les grands airs de cette demoiselle, qui, en définitive, ne valait pas mieux que les autres. Il se disait qu'elle ne l'eût pas accueilli si durement s'il eût été riche, s'il eût eu des toilettes et des chevaux à lui offrir. Enfin, il avait pris la résolution de n'y plus penser, une de ces belles résolutions qu'on prend toujours et qu'on ne tient jamais, quand, la nuit venant, il descendit pour se rendre rue Saint-Gilles dîner. Mais, ainsi qu'il lui arrivait souvent, il s'arrêta au café qui touche à l'hôtel des Folies et, s'attablant sur la terrasse, il se fit servir une consommation. Il battait son absinthe selon l'expression consacrée, c'est-à-dire qu'il versait l'eau dans le verre, d'assez haut et par à coup, de façon à bien brouiller la liqueur et à lui donner cette apparence nauséabonde qui est la joie des amateurs, lorsque tout à coup il vit arriver au grand trot et s'arrêter court la voiture du matin. Mademoiselle Lucienne en descendit lentement, traversa le trottoir et s'enfonça dans les 3 corridors de l'hôtel. Presque aussitôt, la voiture, tournant bride, repartit. « Qu'est-ce que cela signifie ?» pensait Maxence, qui en oubliait d'avaler son absinthe. Il se perdait en conjectures absurdes quand, au bout d'un quart d'heure environ, il vit reparaître la jeune fille. Déjà, elle avait dépouillé sa belle toilette et repris sa petite robe de laine noire. Elle avait un panier au bras et se dirigeait vers la rue Charlot. Sans plus de réflexion, Maxence se leva brusquement et se mit à la suivre en prenant bien des précautions pour qu'elle ne l'aperçût pas. Elle tourna rue Charlot, traversa la rue Turenne et enfin, au coin de la rue de Saint-Onge, elle entra dans la boutique d'une espèce de marchand de 20 traiteurs où se lisait sur une grande pancarte « Ordinaire à toute heure à 40 centimes. Œufs durs et salade de saison ». S'étant avancée sournoisement, Maxence vit Mademoiselle Lucienne tirer de son panier une boîte de fer blanc et y faire verser ce qu'on appelle un ordinaire. Un quart de litre de bouillon, un morceau de bœuf de la grosseur du poing et quelques légumes. Elle fit ensuite emplir à demi de vin une petite bouteille, paya et sortit de cet air de dignité grave qui lui était habituel. « Singulier dîner !» murmurait Maxence, pour une femme qui tout à l'heure s'étalait dans un équipage de 500 louis. De ce moment, elle devint sa préoccupation unique, l'obsession de sa pensée. Une passion qu'il ne discutait plus s'infiltrait comme un poison subtil jusqu'aux dernières fibres de son être. Où cela le conduirait-il ? Déjà, il ne se le demandait plus. Il se tenait pour heureux les jours où, après une longue faction, il avait réussi à entrevoir cette singulière jeune fille. C'est qu'après cette expédition si extraordinaire, elle semblait avoir pris son train de vie habituel. Dès le matin, elle partait pour ne plus revenir que le soir très tard. La Fortin en était confondue. « Elle se sera montrée trop exigeante, » disait-elle à Maxence, « et l'affaire aura manqué. » Lui ne répondait pas. Les insinuations de l'honorable gérante lui faisaient horreur, et cependant, il ne cessait de se répéter qu'il fallait être naïf jusqu'à la stupidité pour croire un instant à la sagesse de cette demoiselle. Que n'eût-il pas donné pour la questionner? Mais il n'osait. Souvent, il s'armait de courage et la guettait sur l'escalier, mais dès qu'elle arrêtait sur lui son grand œil noir tranquille, toutes les phrases qu'il avait préparées s'envolaient de son cerveau, sa langue se collait contre son palais, et c'est bien juste s'il arrivait à balbutier un timide « Bonjour, mademoiselle !» Il en pleurait de dépit, de découragement et de désir, se disant que puisqu'il était à ce point ridicule et pusillanime, le plus court était de quitter l'hôtel des Folies. Mais un soir, « Eh bien, lui dit la Fortin, tout est raccommodé à ce qu'il paraît. La belle voiture est encore venue chercher notre jeune fille. » Maxence l'eût battu. « Serez-vous donc bien avancé, répondit-il, quand Lucienne aura mal tourné ?» L'œil jaune de l'honorable gérante s'illumina et avec un mauvais sourire. « Ça fait toujours plaisir, grommela-t-elle, d'en avoir une de plus à faire damner les hommes. C'est ces filles-là qui nous vengent, nous autres, pauvres bêtes d'honnêtes femmes. » La suite sembla d'abord justifier les plus fâcheuses prévisions. Trois fois cette semaine, mademoiselle Lucienne, selon l'expression de la Fortin, sortit en grand tralala. Mais comme toujours, elle rentrait, et que, sitôt rentrée, elle reprenait son éternelle robe de laine. « C'est à n'y rien comprendre, » se disait Maxence. « N'importe, j'en aurai le cœur net. » Il demanda en effet et obtint un congé, et dès le lendemain, il s'établissait en embuscade derrière la vitre du café voisin. Le premier jour, il perdit ses peines, mais le second, sur les 3 heures, le fameux huit ressorts parut. Et quelques instants plus tard, mademoiselle Lucienne y prenait place. Sa toilette était plus riche encore que la première fois et si éclatante qu'elle fit presque scandale pendant le temps qu'elle mit à traverser le trottoir et à s'installer sur les coussins. Déjà, Maxence s'était élancé sur le boulevard. Avisant un fiacre vide, il y monta. « Vous voyez cet équipage ? » dit-il au cocher. « Où qu'il aille, il faut le suivre. Il y a 10 francs de pourboire. »« Connu !» répondit le cocher en fouettant son cheval. Et il avait raison de fouetter. C'est au grand trot que les chevaux qui emportaient la jeune fille descendirent le boulevard jusqu'à la Madeleine, suivirent la rue Royale et traversèrent la place de la Concorde. Mais en s'engageant dans l'avenue des Champs-Élysées, ils prirent le pas. On était à la fin de septembre et il faisait une de ces radieuses journées d'automne qui sont un dernier sourire du ciel bleu et la dernière caresse du soleil. Il y avait des courses au bois de Boulogne. C'est par 5 ou 6 de front que les équipages remontaient la chaussée. Les contre-allées étaient envahies par les promeneurs et sur le bord du trottoir, dans des chaises, les flâneurs alignés respiraient la brise tiède en regardant passer le monde. Jamais avoir tout ce mouvement, ce luxe, ce bruit, cet entrain de plaisir, on ne se fût douté qu'on venait de traverser les terribles années de 1870 et de 1871. On eût été tenté de croire à un cauchemar sinistre si on eût aperçu, n'attestant que trop la réalité des désastres, d'un côté la silhouette des Tuileries incendiées, de l'autre les échafaudages des ouvriers occupés à réparer l'Arc de Triomphe. Du fond de son fiacre, Maxence ne perdait pas de vue mademoiselle Lucienne. Elle faisait sensation, évidemment. Les hommes s'arrêtaient pour la regarder d'un air d'admiration ébahi, les femmes se penchaient hors de leur voiture pour la mieux voir. « Où va-t-elle ainsi ?» se demandait Maxence. Elle se rendait au bois et bientôt sa voiture s'engagea dans l'interminable file des voitures qui tournaient au pas dans la grande allée. Suivre à pied devenait plus simple. Maxence envoya son fiacre l'attendre à quelque distance et s'engagea dans l'allée des piétons qui serpente autour des lacs. Il n'y avait pas fait 50 pas qu'il s'entendit appeler. Il se retourna et, à deux longueurs de canne, aperçut M. Saint-Pavin et M. Costeclar. C'est à peine si Maxence connaissait M. Saint-Pavin pour l'avoir vu 3 ou 4 fois rue Saint-Gilles, et il exécrait M. Costeclar. Pourtant, il avança. La voiture de Mlle Lucienne était prise dans la file, il était certain de la rejoindre quand bon lui semblerait, et il se trouvait dans une de ces dispositions d'esprit où toute occasion paraît bonne d'échapper à ses réflexions, où on découvre du charme au visage d'un ennemi, où on écoute avec intérêt l'inepte bavardage d'un sot. « C'est un miracle que de vous rencontrer ici, mon cher Maxence !» s'écria M. Costeclar, assez haut pour faire tourner la tête à plusieurs personnes. Occuper autrui de soi, quand même et à n'importe quel prix, était la grande préoccupation de M. Costeclar. On le devinait rien qu'à sa mise, à la cambrure de son chapeau, aux rayures éclatantes de sa chemise, à son col ridicule, à ses manchettes exagérées, à ses bottes, à ses gants, à sa canne, à tout enfin. « Si vous nous voyez sur nos jambes, ajouta-t-il, c'est que nous avons tenu à marcher un peu. Ordonnance du docteur, mon très cher. Ma voiture est là-bas, tenez, derrière ces arbres. Reconnaissez-vous mes pommelés ?» Et il tendait sa canne dans la direction, comme s'il se fût adressé non pas seulement à Maxence, mais à tous les gens qui passaient. « C'est bon, va, on sait que tu as une voiture !» interrompit M. Saint-Pavin. Le directeur du pilote financier était le vivant contraste de son compagnon. Encore plus débraillé que M. Costeclar n'était tiré à 4 épingles, il étalait cyniquement une cravate roulée en corde sur une chemise de 2 ou 3 jours, une redingote toute blanche de duvet et de peluche, des bottines boueuses, bien qu'il n'eût pas plu depuis plusieurs jours, et de grandes mains rouges d'une surprenante malpropreté. Il n'en était que plus fier, et c'est crânement qu'il portait sur l'oreille un chapeau que n'avait pas touché la brosse depuis le jour où il était sorti du magasin du Chapelier. « Ce diable de Costeclar, poursuivit-il, il ne veut pas croire qu'il y a en France un certain nombre de gens qui vivent et qui meurent sans avoir eu jamais ni coupé ni cheval, ce qui est avéré cependant. » Ces fils de famille qui ont trouvé dans leur lange 50 ou 60 000 livres de rente sont tous les mêmes. L'intention blessante était manifeste, mais M. Costeclar n'était pas homme à se fâcher de si peu. « Tu es de méchante humeur, mon très cher » dit-il. Le directeur du pilote financier eut un geste menaçant. « Eh bien oui, » répondit-il, « je suis de mauvaise humeur, comme un homme qui depuis 10 ans bat la grosse caisse à la porte de toutes vos sacrées baraques financières et qui ne fait pas ses frais. Oui, voilà 10 ans que je m'enroue à clamer votre boniment. Entrez, mesdames et messieurs, et pour chaque pièce de 20 sous que vous nous confierez, nous vous rendrons un écu de 6 francs. Entrez, suivez le monde, passez au bureau, voilà l'heure et le moment. » On entre, on passe au bureau. Vous recevez des montagnes de pièces de 20 sous, vous ne rendez jamais rien, ni écu de 6 francs, ni seulement 1 centime, le tour est fait, le public est refait, vous roulez voiture, vous suspendez des diamants aux oreilles de vos maîtresses, et moi, l'organisateur du succès, moi dont les réclames fouillent les poches les mieux closes et font tressaillir les vieux louis jusqu'au fond des bas de laine, j'en suis réduit à faire ressemeler mes bottes. Vous me marchandez mon existence. Vous rechignez, dès que je vous parle de payer les grosses caisses, crevez à votre service. » Il parlait si haut que 3 ou 4 curieux s'étaient arrêtés. Mais que lui importait? Et de son terrible accent gascon, « Mais j'en ai assez, continua-t-il, de ce métier de dupe. Et un de ces 4 matins, au lieu de ces blagues qui ont fait votre fortune, je vais me mettre à imprimer la vérité toute vive et toute nue. Ah, vous ne voulez pas me payer? Eh bien, le public me paiera, lui, pour savoir au juste ce que sont toutes vos boutiques et ce qu'il risque à s'y aventurer. » Sans être un grand clerc, Maxence comprenait fort bien qu'il était arrivé au plus fort d'une âpre discussion d'argent entre ces deux messieurs. Serré de trop près et croyant ainsi gagner du temps, M. Costeclar l'avait appelé, mais l'autre n'était pas d'un caractère à se laisser fermer la bouche par un tiers. Saluant donc, « Excusez-moi, messieurs, dit le jeune homme, de vous avoir interrompu. » Mais M. Costeclar le retint. « Je ne vous lâche pas, déclara-t-il. Vous allez venir avec nous prendre un verre de madère à la cascade. » Et s'adressant au directeur du pilote, « Allons, tais-toi, lui dit-il, tu auras ce que tu demandes.
Vrai ?
Tu as ma parole.
J'aimerais mieux un petit bout d'engagement.
Je te le signerai ce soir.
Oh, alors, en avant les grands moyens, tu me diras des nouvelles de mon numéro de dimanche.
La paix était faite, et c'est le plus amicalement du monde que ces messieurs continuèrent leur promenade le long de l'allée des piétons.
« Ainsi, disait M. Costeclar à Maxence, vous ne venez pas souvent au bois ?»«
Jamais, je n'en ai ni le temps ni les moyens. » »«
Eh bien, c'est un tort, interrompit M. Saint-Pavin. »
Et s'arrêtant brusquement,
« Oui, c'est un tort, insista-t-il, car le spectacle est curieux et vaut la peine d'être médité. Regardez bien, M. Favoral, et de tous vos yeux. Regardez-moi ces voitures de toutes sortes, ces livrées, ces cavaliers, ces chevaux, ces femmes en toilettes magnifiques, tout ce luxe, tout cet étalage. C'est ici que se dépense une bonne partie de cet argent des autres qu'on se dispute si chaudement à la bourse. C'est ici que moi, qui suis un philosophe, je viens chercher le pourquoi d'un tas de petites infamies, le secret de filouteries inexplicables, la raison de ces ruines soudaines dont vous parlent les journaux. C'est ici que les heureux du jeu s'étalent et brillent. C'est pour s'y étaler et y briller qu'on joue. Demandez à Costeclar pourquoi il va fonder une société au capital de je ne sais combien de millions. Il vous répondra que c'est pour construire un chemin de fer. Eh bien, pas du tout. C'est pour avoir la gloire de payer cette Victoria caisse bleue, tenez là-bas, à la demoiselle qui s'y vautre, et qui n'est autre que Jenny Fancy. Elle n'est plus jeune, vous le voyez, ni jolie, ni gracieuse. Elle est plus sotte que vous ne le sauriez imaginer. Mais elle est illustre. Elle a été la maîtresse du comte Hector de Trémorel, qui s'est suicidé après avoir empoisonné un de ses amis et assassiné la veuve de cet ami qu'il avait épousé. La Victoria caisse bleue passait. Du haut des coussins, Madame Fancy adressa à M. Costeclar un geste amical. Et lui ?
Tu as beau plaisanter, dit-il à Saint-Pavin. Fancy est encore une des femmes les plus remarquables de Paris.
Combien te coûte-t-elle ? Ricana le directeur du pilote. Et tout de suite, s'adressant à Maxence, ouvrez les yeux et les oreilles, continua-t-il. Soyez juge. Et dites-moi si Fancy n'a pas ici des rivales dont les titres priment les siens. Par exemple, c'est pour cette blonde si maigre, là, dans ce huit ressorts, que le notaire Coquart s'est brûlé la cervelle après avoir raflé 1 million à ses clients. C'est pour cette autre si plâtrée que Dernoton a tué son beau-frère en duel. Cette petite brune a mangé 800 000 francs en 2 ans à ce pauvre Sarige qui est maintenant au bagne. Voici Flora, qui donnait à jouer chez elle et qui faisait tricher son amant, le petit rue de Modane, qui doit faire à cette heure des chaussons de lisière dans quelque maison centrale. Voici encore Madame de Champclos, dont le vrai nom est Eulalie Trottignon, pour qui 2 commis bijoutiers dévalisaient leur patron, et la Gypsy, qui est en train de ruiner notre ami Courmarche, et la Nina, qui ruinera notre ami Doulevent. Les voitures incessamment se succédaient, et à toutes ces dames, la fine fleur, disait-il, M. Costeclar adressait son plus gracieux sourire. Et, par moments, prenant la parole à son tour, « Voici, disait-il, la comtesse de Lagor et Madame de Chandornay. » Et il saluait. « Voici Madame de Manosque, dont le mari voyage en Allemagne pour insuffisance d'actifs. » Et il resaluait. Voici Miss Gould, la fille de cet Américain si riche qui, donnant un bal dernièrement au Grand Hôtel, avait écrit de sa main au bas des invitations « Si quelque dame a besoin de fonds pour sa toilette, elle peut, avec la présente, se présenter à la caisse et il sera fait droit à sa demande. » Monsieur Saint-Pavin se frottait les mains. « Et plusieurs dames se sont présentées à la caisse, ricana-t-il. Gould me l'a dit. « Voici encore, continuait Monsieur Costeclar. Madame Firmin, la femme du banquier, et Mademoiselle Marcollet, la fille du marchand de brevets, et là-bas, dans cette voiture, avec ses 2 grands valets de pied, Madame et Mademoiselle de Thaler. » Mais il s'interrompit, se haussa sur ses pieds, et tout à coup, « Sacrebleu, la belle personne » s'écria-t-il. Sans trop d'affectation, Maxence recula d'un pas. Il se sentait rougir jusqu'aux oreilles et tremblait qu'on ne remarquât sa rougeur soudaine et qu'on ne l'interrogeât. C'est que c'était Mademoiselle Lucienne qui provoquait ainsi le bruyant enthousiasme de M. Costeclar.
Une fois déjà, elle venait de faire le tour du lac et elle continuait sa promenade circulaire.
Positivement, approuva le directeur du pilote financier. Elle est un peu mieux que toutes ces dames que nous venons de voir passer.
Pour un peu, M. Costeclar se serait arraché les cheveux.
« Et je ne la connais pas !» poursuivait-il. « Une femme adorable se promène au bois et je ne sais pas qui elle est. C'est ridicule et prodigieux. Qui nous renseignera ?»
À une petite distance, se tenaient groupés quelques hommes qui, eux aussi, venaient de mettre pied à terre pour se dégourdir les jambes. Ils étaient là aux premières loges et, le chapeau sur l'oreille, le cigare aux dents et le lorgnon à l'œil, impertinent, content de soi, tantôt ricanant et tantôt saluant jusqu'à terre, il regardait ce défilé qui semblait ne pas devoir finir et cette exhibition d'équipages et de toilettes.
« Ce sont des amis, » dit M. Costeclar à Maxence et à Saint-Pavin. « Approchons. »
Ils approchèrent et tout de suite, avec cette désinvolture qui le distinguait,
« Qui est celle-là » interrogea M. Costeclar. « Cette brune, là-bas, dont la voiture suit celle de la baronne de Thaler. »
Un vieux jeune homme aux cheveux rares, à la barbe teinte et au sourire impudent, lui répondit
« Voilà justement ce que nous sommes en train de nous demander. Personne de nous encore ne l'avait vue. »«
Pardon, » interrompit un autre, « je viens de vous dire que je l'ai aperçue avant-hier. »«
Et vous savez qui elle est ?»«
Non. »«
Alors, nous n'en sommes pas plus avancés, » dit un petit jeune homme à tournure prétentieuse.
« Ce doit être une étrangère, une espagnole. »
« Qu'en pensez-vous, vicomte ?»
Le vicomte était un grand garçon d'une surprenante maigreur. Ses habits sur son corps flottaient comme des hardes qu'on a mises séchées le long d'une perche.
« Une espagnole ne serait pas si blanche, » répondit-il. « Je n'ai vu ce teint éblouissant qu'aux brunes des pays du Nord, aux Suédoises par exemple. »«
Peut-être est-ce une Suédoise ?»
Le vieux beau hocha la tête.
« Une étrangère, » déclara-t-il sentencieusement, « ne serait pas seule dans sa voiture. Elle aurait avec elle un père ou un mari, une parente, une amie, quelqu'un enfin.
« Baste !» interrompit M. Costeclar. « C'est simplement quelques femmes de la société. »«
Avec cette toilette ?» fit M. Saint-Pavin.
« Pardon, je la trouve délicieuse. »«
Naturellement, puisqu'elle tire l'œil à 100 pas. Mais c'est pour cela, précisément, que jamais une femme comme il faut ne l'étalerait dans une voiture de louage. »
Maxence tressaillit.
« Quoi ? C'est une voiture de louage ? » s'écria-t-il.
D'un air de dédaigneuse surprise, les autres le regardèrent, le toisant du bout des bottes jusqu'à l'extrémité du chapeau.
« Comment ? Vous n'avez pas reconnu un huit ressorts de chez Brion ?» lui dit M. Costeclar. « Où diable avez-vous la tête ?»
Mais le maigre vicomte était l'oracle de cette intéressante société.
« Ne vous creusez pas la cervelle, mais très cher, » reprit-il. « C'est une femme qu'on lance, tout simplement. Et si elle est à droite, elle a d'assez jolis yeux pour faire sa fortune et celle des honnêtes gens qui spéculent sur sa beauté et qui lui avancent sa voiture et ses toilettes. »«
J'en aurais sacrebleu le cœur net !» interrompit M. Costeclar. « J'ai un domestique intelligent. »
Déjà, il s'élançait vers l'endroit où stationnait son coupé. Le vieux beau le retint.
« Ne vous dérangez pas, cher ami, » fit-il d'un ton goguenard. « J'ai aussi un domestique qui n'est pas une bête, et voici un quart d'heure qu'il a mes ordres. »
Tous les autres éclatèrent de rire.
« Distancé, Costeclar !» s'écria M. Saint-Pavin, qui, malgré le débraillé de sa mise et le cynisme de ses façons, semblait on ne peut mieux accepter.
Personne ne faisait plus attention à Maxence. Il en profita pour s'esquiver, sans le moindre souci de ce que penserait M. Costeclar. Il avait bien eu un moment la pensée de prendre la défense de Mademoiselle Lucienne. Il avait été retenu par la peur du ridicule et aussi par cette conviction que le vicomte n'avait que trop raison. Est-ce que toutes les apparences n'étaient pas contre elle ? Comment expliquer autrement que par d'inavouables espérances, sa présence au bois, à cette heure, avec cette toilette tapageuse, dans cette voiture de louage ? Ainsi, son existence de privation n'était qu'un calcul. Sa sagesse qu'une spéculation. Elle était, comme toutes les autres, plus prudente seulement et plus patiente. Et froidement, sans l'excuse de la passion ni de l'entraînement, elle attendait, elle épiait l'occasion de faillir fructueusement.
« Ah, la misérable !» se disait Maxence, outré de colère, comme si elle l'eût trahi,
et suivant du regard sombre de l'envie tous ces jeunes gens qui passaient à cheval, des jeunes gens riches, et parmi lesquels, pensait-il, mademoiselle Lucienne ne demanderait pas mieux que de choisir. Mais il arrivait à l'allée où l'attendait son fiacre. « Où allons-nous, bourgeois ?» lui demanda le cocher, tout en se hâtant de retirer à son cheval sa musette d'avoine. Maxence hésita. Qu'avait-il de mieux à faire que de rentrer ? Il avait voulu savoir, il savait, croyait-il. Et cependant, « Nous allons, répondit-il, attendre la voiture de tantôt et la suivre au retour. » Il n'en apprit pas davantage. C'est au boulevard du Temple, à l'hôtel des Folies, directement, que se fit ramener mademoiselle Lucienne. Et, de même que l'autre fois, elle se hâta de reprendre son éternelle robe noire, et Maxence la vit aller chercher son modeste dîner chez le petit traiteur de la rue Saint-Onge. Mais il vit autre chose encore. Presque sur les pas de la jeune fille, un domestique s'enfonça dans le corridor de l'hôtel et ne se retira qu'après être resté un gros quart d'heure en grande conférence avec la Fortin. « C'est fini, » pensa le pauvre garçon. « Lucienne ne sera pas longtemps ma voisine. » Il se trompait. Un mois s'écoula sans amener aucun changement. Comme par le passé, la jeune fille partait tôt, rentrait tard et tous les dimanches restait seule enfermée dans sa chambre. Une ou deux fois la semaine, quand le temps était beau, la voiture de chez Brion venait la prendre sur les 3 heures et la ramenait à la nuit. Si bien que, ne sachant plus qu'imaginer, Maxence, désespérément, se raccrochait aux plus folles conjectures lorsqu'un soir, qui était le 31 octobre, comme il rentrait se coucher, il entendit de grands éclats de voix dans le bureau de l'hôtel. Poussé par une instinctive curiosité, il s'avança sur la pointe du pied de façon à bien voir et à bien entendre. Les époux Fortin et mademoiselle Lucienne étaient en grande discussion. « C'est se moquer !» clamait l'honorable gérante. « Et je prétends être payée !» Mademoiselle Lucienne était fort calme. « Eh bien, répondit-elle, est-ce que je ne vous paie pas ? Est-ce que ne voici pas 40 francs, 30 francs d'avance pour ma chambre et 10 à valoir sur l'arriéré ? Je ne veux pas de vos 10 francs. Que voulez-vous donc ? Tout, les 150 francs que vous me devez encore. » La jeune fille haussa les épaules. « Vous oubliez nos conventions, » prononça-t-elle. « Nos conventions ? Oui, lorsque le calme a été rétabli dans Paris, il a été entendu que chaque mois, je vous donnerai 10 francs sur l'arriéré. Tant que je vous les donne, vous n'avez rien à me réclamer. » Cramoisie de colère, la Fortin s'était dressée sur ses jambes. « Autrefois, » interrompit-elle, « je croyais avoir affaire à une pauvre ouvrière, à une honnête fille. » Mademoiselle Lucienne ne daigna pas relever l'insulte. « Je n'ai pas la somme que vous me demandez, » dit-elle froidement. « Eh bien, vociféra l'autre, tu iras les demander à ceux qui te paient des voitures, coquine, à ceux qui te donnent des toilettes et qui affichent ma maison, coureuse !» Toujours aussi impassible, la jeune fille, au lieu de répondre, allongea la main vers le tableau où était accrochée sa clé. Mais le sieur Fortin lui arrêta le bras et ricanant, « Ah, mais non, fit-il, pas d'argent, pas de clé. Quand on ne paie pas son hôtel, on couche dehors, ma biche !» Maxence, le matin même, avait touché son moi et il sentait, en quelque sorte, tressaillir dans sa poche 200 francs en beaux billets de 5 francs. Obéissant à une inspiration soudaine, il ouvrit brusquement la porte du bureau. « Voilà votre argent, misérable » cria-t-il. Et jetant 150 francs sur la table, il se retira.